Bienvenue à la caserne Achard à Poitiers, où nous débutons la conférence radiophonique pour faire mieux avec moins, la sobriété foncière au service des territoires. Cette conférence est la première action de médiation de la démarche Territoire pilote de sobriété foncière, initiée à l'échelle nationale. Elle est portée en local par Grand Poitiers Communauté Urbaine et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et menée par l'équipe pluridisciplinaire composée de Selva et Mogin, Urban Idée, Guam et Tout Terrain en charge de la médiation. Alors Philippe Biwix, outre la densification malgré toutes ces limites, vous avancez une autre piste pour réduire l'impact carbone de nos villes, celle de l'éco-construction. Mais ça consiste en quoi exactement ?
Oui, en fait, il est clair que les villes aujourd'hui, elles ont pris conscience de la question du poids environnemental, de leur fonctionnement, de leur fabrication. Il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, même au niveau mondial, ça se passe comme ça. Vous avez peut-être vu quand Trump, par exemple, s'était sorti des accords de Paris, avait dit qu'il sortait les États-Unis de l'accord de Paris. Il y a toute une série de villes aux États-Unis qui avaient dit « We are still in », nous, on y est toujours, on veut y être. Et donc, vous avez même plein de villes qui sont en réseau, ensemble, et qui sont je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le C40, il y a des villes neutres, qui promettent toutes, en fait, la neutralité carbone en 2050. En disant, nous, bien sûr, villes, on fait partie du problème, on est même une grosse partie du problème, bien sûr, puisque une grande partie, c'est dans la construction et puis dans le chauffage, etc., la consommation des villes et de leurs habitants. Mais évidemment, comme on fait partie du problème, on va faire partie de la solution. Et donc, c'est ça l'avantage. Et donc, nous, voilà, c'est super, on va aller faire... On va y aller. Et dans les leviers potentiels pour atteindre cette neutralité carbone, on a la question de la densification, qui se lie à la question des usages du transport et du transport individuel. Mais on en a aussi deux autres. Il y a l'éco-construction, je vais y revenir dans un instant, et puis je fais un petit détour. On a aussi le côté un peu smart. Vous savez, le fait que les villes vont devenir intelligentes avec des capteurs, avec des possibilités d'échanger, des réseaux de chaleur, des réseaux de stockage, de l'énergie renouvelable, des choses qui vont être optimisées, les feux, les circulations. On pourra avoir des voitures autonomes qui vont venir nous déposer chez nous, nous prendre le matin, puis aller faire les courses à maman, à grand-maman, dans la journée pendant que moi je suis au bureau, etc., enfin au travail. Donc il y a toute cette possibilité. Et d'ailleurs, quand il y a eu le débat, je ne sais pas si vous avez eu un débat sur le déploiement de la 5G à Poitiers. Bon, il y a des villes qui ont été plus ou moins motrices là-dessus. Il y avait Stéphane Richard, ex-cabinet de je ne sais plus quel ministère, qui était à ce moment-là patron de Orange, qui avait un peu mouillé la chemise et qui avait dit qu'il faut déployer la 5G parce que les villes vont avoir besoin de la 5G pour faire leur transition. Hein, c'était vraiment de dire qu'il faut installer ce réseau de télécom pour ensuite finalement permettre à ces villes intelligentes de devenir plus économe. Bon, alors pour l'instant, on a installé la 5G, qu'on a empilé sur la 4G, sur la 3G, sur la 2G. Bon, on attend encore les cas d'usage de la smart city environnementale. On verra bien, on attend des poubelles connectées, des trucs comme ça, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas venu. Et effectivement, le troisième levier, c'est le fait d'éco-construire, de dire que finalement, on va continuer à construire, on a besoin de construire. Le fait est qu'effectivement... il y a un peu, pas énormément, mais un petit peu de croissance démographique, il y a des bougies, il y a des choses comme ça, il y a plus de gens qui sont étudiants, tant mieux, il faut les loger. Bon. Donc il y a des besoins, et que pour faire face à ces besoins, en fait, on va le faire, mais avec des bâtiments qui vont être de plus en plus écolos, éco-construits, éco-conçus. Alors soit parce que la réglementation progresse, vous savez par exemple, là maintenant, une nouvelle réglementation thermique est devenue une réglementation environnementale qui a démarré en 2022, soit parce qu'on va avoir carrément des matériaux écolos. Alors là, dans la gamme des matériaux écolos, on a plein de choses. Alors la première question, c'est le ciment et l'acier. Ce sont les deux grands facteurs d'émissions. Hein. Du coup, si le ciment était un pays, au niveau mondial, ça serait le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Si l'acier était un pays, ça serait le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre. Tous les deux à peu près à égalité, c'est 7% des émissions mondiales. Donc, il serait deuxième derrière, je ne sais plus qui, la Chine peut-être, les États-Unis. Donc, du coup, il y a un fort enjeu. Alors, le premier, sur l'acier, l'idée, ça serait de faire du... En fait, vous savez comment ça marche, l'acier, en fait, on prend on prend du minerai fer, c'est de l'oxyde de fer et on va réduire l'oxyde de fer, c'est-à-dire qu'on va trouver quelqu'un qui va attraper l'oxygène dans l'oxyde et qui va faire du fer. Et le truc qu'on trouve pour attraper, c'est du coke, c'est-à-dire du charbon en fait, qu'on a un petit peu séché et allégé. Donc du coup, il y a fatalement une émission de CO2. Alors, du coup, c'est une formule chimique assez simple. C'est Fe2O3 plus je ne sais plus combien de C donne Fe plus CO2. Donc voilà. Donc je vous passe les détails, mais en gros, l'idée, ça serait d'essayer de réduire l'acier. Alors faire de l'acier recyclé, ça effectivement, on sait faire, mais l'acier finalement qu'on utilise dans les ferraillages, c'est déjà un peu de l'acier recyclé de toute manière, donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est le recyclage des voitures. Et puis, la deuxième solution, ça serait de réduire l'oxyde de fer à l'hydrogène. Donc ça, c'est un pilote là, sur lequel, à Dunkerque, ça va s'installer. Là, ils vont essayer. Donc ça marche, on sait que ça marche. Après, la question, c'est comment on produit l'hydrogène. Donc on vient toujours sur la question de dire ensuite avec quelle énergie, etc. Sur le ciment, on est beaucoup plus embêté, encore plus embêté, si je puis dire, parce que là, ce n'est pas juste un pari, disons, économique et de faisabilité un peu technique. C'est vraiment un pari tout court parce que alors le ciment... Je vous refais l'équation chimique, là c'est un autre, c'est on prend du calcaire, en gros, donc c'est du carbonate de calcium, CaCO3, et il faut enlever un CO2 pour faire CaO. Voilà. Et ça s'appelle, en gros, pour faire simple, le clinker, on mélange avec un peu d'argile, on cuit tout ça, ça marche comme ça. Donc il y a une émission de CO2 quand on fabrique du ciment, c'est quasiment impossible d'échapper à ça. Donc la seule solution, de capter à la source le CO2 et puis de le stocker, voilà, ça va être un peu compliqué. On ne sait pas trop comment on va faire ça, donc c'est un peu embêtant. Donc, on a ce problème. Il n'y a pas grand-chose à espérer des matériaux verts au sens de faire du ciment vert demain, de l'acier vert, même si on commence à voir des choses un peu en marketing. Le marketing est toujours très fort. Voilà. L'autre solution, alors il y a d'autres solutions intermédiaires vachement sympas qui sont par exemple le réemploi. Donc ça, c'est le fait de dire, mais bon Dieu, quand on va, je ne sais pas, déconstruire un bâtiment, au lieu de le démolir, de tout foutre à la benne, d'arriver avec une grosse pince et puis en finir en décharge, bah, y a plein de trucs qu'on peut récupérer. On peut récupérer des faux plafonds, on peut récupérer des sols, on peut récupérer de la plomberie, on peut récupérer de l'électricité, des menuiseries, plein de choses. Donc ça, c'est plutôt pourquoi jeter tout ce patrimoine-là. Donc ça, c'est quelque chose qui démarre, ça intéresse tous les architectes, mais c'est très compliqué à faire. Il faut être hyper motivé parce que, bah, évidemment, il faut designer une partie peut-être du bâtiment autour de ça, c'est très très complexe. Et puis le dernier sujet, c'est les éco-matériaux, les biomatériaux. Alors là, il y a une source formidable, hein, parce que maintenant on est capable de monter à 10 étages, pas à Poitiers j'espère, enfin pour vous, mais tout en bois, sans difficulté, on a fait des progrès énormes. Simplement, il y a un moment où si on veut construire autant qu'on construit aujourd'hui que en bois, les forêts françaises, ou même européennes, ça va être un peu compliqué. Hein. Et en plus, la forêt, elle était relativement en forme jusqu'à pas très longtemps, a planté beaucoup de pins Douglas dans les années 50-60, qui sont en train de donner tout leur bon rendement. Ils commencent à être bien dans la phase où ils capturent bien du carbone, ils poussent bien. Mais le changement climatique fait qu'ils sont en train de prendre un petit coup, enfin, eux et d'autres. Et donc, on va avoir un sujet de capacité. Donc, il y a beaucoup de projets emblématiques autour de la question de la construction bois. Très sympa, ça donne très envie et tout, mais ça va être un petit peu juste. Si on veut continuer à construire autant, tout en construisant en bois. Puis après, il y a des effets un peu culturels. C'est vrai que, alors là maintenant, ça commence à passer pour les vieilles générations, mais il y a eu un moment en France où la baraque en bois, c'était soit le STO, soit le camp de concentration, soit les sinistrés qui avaient pris des bombes dans les poches qui restaient, et donc ils étaient logés dans les baraques en bois. Donc le bois, en France, c'est pas un truc... construire sa maison en bois, c'est encore un truc un peu difficile. Alors qu'il y a des pays où il y a beaucoup de maisons construites en bois, et très très bien, et que maintenant on peut faire des maisons en bois très bien. Moi je pense qu'il faut diversifier très fort, et probablement les maisons, il faut plutôt faire de la construction en terre. Donc là il y a plein de techniques aussi de bauge, pisé, adobe, briques de terre crue, etc. Et garder le bois pour des trucs où on a besoin d'un peu de structurel, et quand on a besoin de monter de 3 étages, et garder la terre pour autre chose. Mais voilà, ça c'est une piste aussi, mais encore une fois... Voilà, par rapport aux millions de mètres carrés qu'on construit chaque année, et puis le fait qu'on fait des trucs en souterrain, des parkings, des trucs, des machins qui enjambent, des choses, des ponts, ça va être très difficile de faire tout ça de manière éco-construite.
Ce podcast est le 3e d'une série de 6 issus de la conférence « Pour faire mieux avec moins », la sobriété foncière au service des territoires, qui s'est déroulée le 6 juillet 2022 à la caserne Achard à Poitiers, dans le cadre de l'étude Territoire pilote de la sobriété foncière. Il a été réalisé par Tout Terrain, co-conçu et organisé avec Selva et Mogin pour Grand Poitiers Communauté Urbaine, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et la Société d'équipement du Poitou.